Le Festival d'Avignon, c'est le festival de la conscience politique.
Olivier Py.
Et ça passe par la culture. C'est pas une vitrine de spectacle seulement. Nous devons travailler à ce que ce très très bel objet, cet outil vraiment formidable, soit le plus ouvert possible et qu'il n'ait pas l'air d'un lieu fermé, isolé, réservé à une élite qui viendrait là faire un art qui ne concerne qu'elle.
Ça peut pas faire de mal.
Je ne pense pas que le théâtre puisse changer directement la société. Je pense qu'il change des hommes. Mais donnez-moi une autre société, je vous donnerai un autre théâtre. C'est une phrase de Villard. Mais je pense que lui, il est là. Il est là et il fait ce travail-là. Il fait ce travail-là d'essayer de nous tourner vers l'autre.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Toby or not Toby? That is the question.
Je t'en prie, dis le texte simplement, comme je te parle, sans exagérer, sans en rajouter, sans gueuler.
Whether 'tis nobler in the main to suffer.
Si c'est pour faire des effets de voix comme beaucoup d'acteurs, j'aime autant confier mon texte à un gendarme. Pas la peine de battre les airs avec de grands gestes comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça te rend si nerveux. Oh, ça m'énerve d'entendre un gueulard, la perruque de travers qui braille sa douleur, qui rend la pièce inécoutable, qui scie les oreilles du public. Déjà qu'ils ne comprennent pas grand-chose, à part les grimaces et les bagarres. Je ferai ce que je peux. Ne sois pas timide non plus. Utilise ta cervelle. Accorde l'action au mot et le mot à l'action. Ce que tu dois montrer, c'est la nature humaine.
The slings and arrows of outrageous fortune.
Certains acteurs ne sont pas des acteurs, ni des hommes. Ce sont des animaux faits par un assistant de Dieu pas très doué. C'est une caricature d'humanité.
Or to take arms against a sea of troubles.
Je pense qu'on y arrive presque. Presque, c'est pas assez.
End them.
Le texte, rien que le texte. Et pas de pitrerie. J'en connais qui jouent le fou rire pour que le public rie aussi. Pendant ce temps, le sens même de la pièce fout le camp. Un acteur qui cabotine est un con qui s'ignore. Cette leçon de théâtre, on la doit à Hamlet, le célèbre héros de la pièce de Shakespeare. Pour mieux confondre les traîtres qui l'entourent, le prince du Danemark, dans l'acte 3, s'improvise metteur en scène. Si la tragédie de Shakespeare fut créée aux alentours de 1600, les conseils du maître arrivent à point nommé à quelques jours du Festival d'Avignon, qui s'ouvre le 6 juillet prochain. Olivier Py, qui orchestre la programmation du IN, propose lui-même une libre adaptation d'Hamlet, en collaboration avec Enzo Verde. La pièce, traduite par Pascal Collin, sera présentée le 22 juillet à la maison Jean Villard, avec des comédiens issus du centre pénitentiaire Avignon-le-Pontet. Je vous propose ce soir de découvrir quelques-uns des grands textes de cette 71e édition. À l'image d'Hamlet, la programmation de cette année est habitée de figures inspirantes qui osent s'élever contre l'ordre établi, que cet ordre relève du pouvoir politique ou de la sphère familiale. Et dans de nombreux spectacles du festival, les femmes occuperont le devant de la scène. Des mythes antiques aux écritures contemporaines, partons donc à la rencontre de ces voix plurielles. Commençons ce parcours en compagnie d'une jeune femme qui tient tête à la loi depuis des millénaires. Je veux parler d'Antigone, bien sûr, l'héroïne incandescente de la pièce de Sophocle. Plus de deux millénaires après sa création, la pièce résonnera avec force en ouverture du festival du 6 au 12 juillet. Le japonais Satoshi Miyagi, dont le Mahabharata avait enchanté Avignon il y a 3 ans, nous réserve une singulière mise en scène du mythe antique, inspirée par l'écrin magnifique du Palais des Papes. L'action d'Antigone se déroule à Thèbes et met en scène les enfants maudits d'Œdipe et de Jocaste. La pièce s'ouvre juste après la mort des frères ennemis, Éthéocle et Polynice, qui convoitaient tous deux le trône de la cité. À l'issue de leur combat mortel, leur oncle Créon, devenu roi de Thèbes, promulgue une loi sans appel. Il donne l'ordre d'enterrer en héros Éthéocle, le bon frère, mais interdit à quiconque d'inhumer Polynice, le mauvais. Les sœurs des jeunes défunts alors réagissent différemment. Tandis qu'Ismène se conforme à la loi, Antigone, elle, brave l'interdiction de leur oncle et enterre leur frère Polynice. Nous voici juste après les faits. Surprise par un garde, Antigone est amenée devant Créon. découvrant ce dialogue impossible où la justice des dieux, portée par Antigone, défie la loi de la cité, incarnée par Créon. Avoues-tu ou nies-tu le fait ?
Je l'avoue et n'ai garde certes de le nier.
Maintenant réponds-moi sans phrase, d'un mot. Connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer ?
Oui, je la connaissais. Pouvais-je l'ignorer ? Elle était des plus claires.
Ainsi tu as osé passer outre à ma loi ?
Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamé. Ce n'est pas la justice assise aux côtés des dieux infernaux. Non, ce ne sont pas là les lois qu'ils ont jamais fixées aux hommes. Et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent, celles-ci, ni d'aujourd'hui ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc, par crainte de qui que ce fût, m'exposer à leur vengeance chez les dieux ? Que je dusse mourir, ne le savais-je pas ? Et cela, quand bien même tu n'aurais rien défendu. Mais mourir avant l'heure, je le dis bien haut, pour moi, c'est tout profit. Lorsqu'on vit comme moi au milieu des malheurs sans nombre, comment ne pas trouver de profit à mourir ? Subir la mort, pour moi, ce n'est pas une souffrance. C'en eût été une au contraire si j'avais toléré que le corps d'un fils de ma mère n'eût pas, après sa mort, obtenu un tombeau. Je te parais sans doute agir comme une folle, mais le fou pourrait bien être celui même qui me traite de folle. Cette fille a déjà montré son insolence en passant outre à des lois établies. Et le crime une fois commis, c'est une insolence nouvelle que de s'en vanter et de ricaner. Désormais, ce n'est plus moi, mais c'est elle qui est l'homme. Si elle doit s'assurer impunément un tel triomphe, eh bien non. Qu'elle soit née de ma sœur, qu'elle soit encore plus proche de moi que tous ceux de notre maison, il n'importe. Ni elle, ni sa sœur Ismène n'échapperont à une mort infâme. Tu me tiens dans tes mains, veux-tu plus que ma mort ?
Nullement. Avec elle, j'ai tout ce que je veux.
Alors pourquoi tarder ? Pas un mot de toi qui me plaise, et j'espère qu'aucun ne me plaira jamais. Et de même, ceux dont j'use, sont-ils pas faits pour te déplaire ? Pouvais-je cependant gagner plus noble gloire que celle d'avoir mis mon frère au tombeau ? Et c'est bien ce à quoi tous ceux que tu vois là applaudiraient aussi, si la peur ne devait leur fermer la bouche. Mais c'est l'avantage de la tyrannie qu'elle a le droit de dire et faire absolument ce qu'elle veut.
Toi seul pense ainsi parmi ces Cadméens.
Ils pensent comme moi, mais ils tiennent leur langue.
Et toi, tu n'as pas honte à te distinguer d'eux ?
Je ne vois pas de honte à honorer un frère.
C'était ton frère aussi, celui qui lui tint tête.
Certes, frère de père et de mère à la fois.
Pourquoi donc ces honneurs à son égard impie ?
Qu'on en appelle aux morts, il dira autrement.
C'est le maître pourtant sur le rang d'un impie,
mais l'autre était son frère et non pas son esclave.
Il ravageait sa terre, lui se battait pour elle.
Hadès n'en veut pas moins voir appliquer ses rites.
Le bon ne se met pas sur le rang du méchant.
Qui sait si sous la terre la vraie piété est là ?
L'ennemi même mort n'est jamais un ami.
Je suis de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent.
Eh bien donc, s'il te faut aimer, va-t'en sous terre aimer les morts. Moi, tant que je vivrai, ce n'est pas une femme qui me fera la loi.
Is it worth it? And you enter gold and shoes for the wife and the bicycle on the boy's birthday. Just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon will be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said that they're gonna take me to dusk, but I'll be back by Christmas. Just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the result of this shipbuilding. With all the will in the world, was spread around town. A telegram or a picture, a postcard. Within weeks they'll be reopening the shipyard and notifying the next of kin. Once again, it's all we're skilled in. We will be shipbuilding.
Dans la lignée d'Antigone, rencontrons une autre héroïne plus proche de nous, qui elle aussi défie les conventions. Il s'agit de Nora, la protagoniste d'une maison de poupées, pièce d'Ibsen, créée en 1879. Le metteur en scène Simon Stone convoquera cette pièce et plusieurs autres du dramaturge norvégien dans son spectacle Ibsen 8, la maison d'Ibsen, présenté du 15 au 20 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph. Une maison de poupées s'ouvre sur un foyer comblé, celui de Nora et Thorvald Elmer, parents de trois jeunes enfants. Thorvald, avocat, vient d'obtenir un poste de directeur de banque.
Oh, viens donc voir ce que j'ai acheté, Thorvald.
Mon Dieu, tu dépenses beaucoup trop.
Oh, maintenant que tu as un poste si important à la banque.
Oui, certes, mais pas de salaire avant le printemps.
On pourrait emprunter, puisque c'est sûr.
Voilà bien les femmes. Allons, le jour où nous aurons plus d'argent devant nous, tu ne me traiteras plus de rabat-joie.
Eh bien quoi, nos boudons?
Regarde. Tu sais ce que je cache ici pour cette vilaine petite fille?
De l'argent?
Alors tu vois, je sais qu'il y a toutes sortes de frais imprévus à Noël.
Oh, Thorvald!
Mais au cours de la pièce, différentes révélations menacent l'équilibre bourgeois du couple. Nous sommes au troisième et dernier acte. Nora, d'apparence insouciante au début de la pièce, a été profondément touchée par les événements survenus. Alors que tout semble rentrer dans l'ordre, la voici sur le point de prendre une décision radicale. Glissons-nous dans la maison du couple Elmer, tard dans la nuit. Le moment est venu pour Nora de régler ses comptes. Assieds-toi, Thorvald. Nous avons beaucoup à nous dire, toi et moi. Tu m'inquiètes, Nora, et je ne te comprends pas. Nous y voici. Tu ne m'as jamais comprise. On m'a fait grand tort, Thorvald. D'abord papa, puis toi. Quoi ? Nous deux ? Nous deux qui t'avons le plus aimé, vous ne m'avez jamais aimé. Il vous a paru agréable d'être en adoration devant moi. Voilà tout. Mais Nora, qu'est-ce que c'est que ces propos? Oui, c'est ainsi, Thorvald. Quand j'étais chez papa, il me faisait part de toutes ses opinions et donc je les partageais. Et si j'en avais d'autres, je les cachais parce que ça ne lui aurait pas plu. Il m'appelait sa petite poupée et il jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Puis je suis venue dans ta maison. Tu as de curieuses expressions pour parler de notre mariage. Je veux dire que je suis passée des mains de papa dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût, et donc j'ai eu le même goût que toi. Ou bien j'ai fait semblant, je ne sais pas au juste. Je crois que c'était l'un et l'autre, tantôt l'un, tantôt l'autre. Toi et papa, vous avez commis un gros péché contre moi. Si je suis une bonne à rien, c'est vous qui en êtes coupable. Nora, tu es absurde et ingrate. N'as-tu pas été heureuse ici?
Non. Je n'ai jamais été. Je l'ai cru, mais je n'ai jamais été. J'ai été joyeuse, voilà tout.
Et tu as toujours été si gentille pour moi. Notre foyer n'a jamais été rien d'autre qu'une salle de récréation. Ici, j'ai été ton épouse poupée. Tout comme à la maison, j'étais l'enfant poupée de papa. Et mes enfants, à leur tour, ont été mes poupées. Voilà ce qu'a été notre mariage, Thorvald.
Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Tout exagéré et outré que ce soit. Mais dorénavant, cela changera. Le temps de la récréation est passé. Voici maintenant le temps de l'éducation.
L'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants?
L'une et l'autre, Manora bien aimée. Tu n'es pas homme à m'élever pour faire de moi l'épouse qu'il te faut. Il faut que je veille à m'éduquer moi-même, et il faut que je sois seule pour le faire. Et voilà pourquoi, maintenant, je vais te quitter. Tu es folle. Tu n'as pas le droit, je te l'interdis. Il ne sert à rien de m'interdire quoi que ce soit désormais. J'emporte ce qui m'appartient. De toi, je ne veux rien, ni maintenant, ni plus tard. Demain, je m'en vais chez moi. Je veux dire dans mon ancienne maison. C'est là qu'il me sera le plus facile de trouver à vivre. Pauvre aveugle, sans expérience, il faut que je veille à acquérir de l'expérience, Thorvald. Abandonner ton foyer, ton mari et tes enfants, et tu ne penses pas à ce que les gens vont dire? Oh, de ça, je ne m'en occupe absolument pas. Je sais seulement que pour moi, c'est indispensable. C'est révoltant. Peux-tu trahir ainsi tes devoirs les plus sacrés? Que tiens-tu donc pour mes devoirs les plus sacrés? Ai-je vraiment besoin de te le dire? Est-ce que ce ne sont pas tes devoirs envers ton mari et tes enfants? J'ai d'autres devoirs tout aussi sacrés. Non, tu n'en as pas. Quels seraient ces devoirs? Mes devoirs envers moi-même. Tu es d'abord et avant tout épouse et mère. Cela, je ne le crois plus. Je crois que je suis d'abord et avant tout un être humain, au même titre que toi. Ou en tout cas, que je dois essayer de le devenir. Je sais bien que la plupart te donneront raison, Thorvald, et que l'on trouve des choses de ce genre dans les livres. Mais je ne veux plus me contenter de ce que les gens disent et de ce qu'il y a dans les livres. Il faut que je réfléchisse moi-même à ces choses et que je tâche de voir clair en elles. Poursuivons ce parcours féminin avec un autre départ, une autre émancipation. Après la prise de conscience de Nora, place à la fougue de la gamine, l'une des protagonistes de la pièce Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès, parue en 1990 aux éditions de Minuit. Ce spectacle sera présenté du 11 au 13 juillet au gymnase du lycée Saint-Joseph et les jeunes comédiens du Conservatoire National seront mis en scène par Yann-Joël Collin. Roberto Zucco, c'est ce criminel en cavale, insaisissable et redouté. Dans sa course folle, il croise la gamine, une jeune fille infantilisée par sa famille. Bouleversée par leur rencontre, celle-ci décide, sans crier gare, de partir à sa recherche. Nous voici à la scène 7 de la pièce. Sur le point de fuir son étouffante maison, la gamine se heurte à sa grande sœur. « Je t'interdis de partir. Tu n'as rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un petit moineau perché sur une branche et moi je suis ta sœur aînée. Toi ? T'es une vierge prolongée, tu ne sais rien de la vie, t'as bien veillé sur toi, tu t'es bien protégée. Moi, je suis vieille, je suis violée, je suis perdue, je prends mes décisions toute seule. N'es-tu pas ma petite sœur qui me faisait toutes ces confidences? N'es-tu pas une vieille fille qui ne connaît rien à rien et devrait se taire devant mon expérience? De quelle expérience parles-tu? L'expérience du malheur ne sert à rien, elle est juste bonne à être oubliée le plus vite possible. Seule l'expérience du bonheur sert à quelque chose. Tu te souviendras toujours des belles soirées tranquilles entre tes parents, ton frère et ta sœur. Jusqu'à ce que tu sois vieille, tu te souviendras de cela. Tandis que le malheur qui s'est abattu sur nous, tu l'oublieras bien vite, mon étourneau, sous le regard de ta sœur, de ton frère et de tes parents. Ce sont mes parents, mon frère et ma sœur que j'oublierai, que j'oublie déjà, mais non pas mon malheur. Ton frère te protégera, mon petit Martinet. Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé, parce qu'il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Il sera à lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Je ne veux pas être aimé. Ne dis pas cela. Il n'y a que cela qui vaille quelque chose dans cette vie. Comment oses-tu dire cela? Tu n'as jamais eu aucun homme. Tu n'as jamais été aimé. Tu es restée toute seule toute ta vie et tu as été très malheureuse. Je n'ai jamais été malheureuse, sauf de ton malheur à toi. Si, je sais que tu as été très malheureuse. Je t'ai souvent surprise en train de pleurer derrière le rideau. Je pleure sans raison à des heures régulières pour prendre de l'avance. Et maintenant, tu ne me verras plus jamais pleurer. J'ai pris beaucoup d'avance. Pourquoi veux-tu partir? Je veux le retrouver. Tu ne le retrouveras pas. Je le retrouverai. Impossible. Tu sais bien que ton frère a essayé pendant des jours et des nuits pour te venger. Mais moi, je ne veux pas me venger. Alors je le retrouverai. Partons loin, nous aussi, des sphères familiales et tentons l'oreille à des voix étrangères. Le départ pour Nora, comme pour la gamine, est synonyme de liberté. Mais le rêve, pour d'autres, c'est au contraire de pouvoir s'ancrer quelque part. En réaction à la politique d'asile inhumaine menée par les pays riches, la femme de lettres Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature, s'est inspirée d'Eschyle pour écrire Les Suppliants en 2013. La pièce est adaptée cette année au Festival d'Avignon par Guy Cassière et Maud Le Pladec. Leur spectacle, Grinsgeval, Borderline, sera présenté du 18 au 24 juillet au Parc des Expositions. Vivant. Vivant. C'est le principal. Nous sommes vivants. Et ce n'est pas beaucoup plus qu'être en vie après avoir quitté la Sainte Patrie. Pas un regard clément ne daigne se tourner vers notre procession, mais nous dédaigner, ça, ils le font. Nous avons fui, non pas banni par notre peuple, mais banni par tous. Ça et là. Tout ce qui est à savoir sur notre vie s'en est allé. Nous essayons de lire les lois étrangères. Nous sommes convoqués puis laissés en plan. Nous sommes tenus d'apparaître. Nous sommes tenus d'apparaître ici, puis là-bas. Mais en quel pays pouvons-nous mettre les pieds? Aucun. Nous nous allongeons sur le sol froid de l'église. Nous nous relevons, ne mangeons rien. Nous devrions pourtant recommencer à manger, à boire au moins. Nous avons ici une ramée pour la paix. Les rameaux d'un palmier à huile, non. D'un olivier, nous les lui avons arrachés, oui. Et puis ceci aussi, tout recouvert d'inscriptions. Nous n'avons que ça. À qui pouvons-nous la remettre, cette pile? Nous avons noirci 2 tonnes de papier. Bien sûr qu'on nous a aidés. Nous le brandissons d'un air suppliant, ce papier. Non, des papiers, nous n'en avons pas. Juste du papier. À qui pouvons-nous le remettre? Au maître de ce pays, au suppléant des maîtres de ce pays et au suppléant des suppléants des maîtres de ce pays, nous serions prêts, nous n'avons évidemment pas le droit de le faire, mais nous le ferions, nous serions prêts à raconter avec prudence, comme il convient aux étrangers, que nous avons fui sans que nos mains ne se tachent de sang. Nous serions fin prêts à le raconter à tout un chacun, nul besoin que ce soit un suppléant. Nous le ferions, parole d'honneur, nous le raconterions à tout le monde, nous le raconterions à tous ceux qui voudraient bien l'entendre, mais personne ne le veut. Pas même le suppléant d'un suppléant ne veut l'entendre. Personne. Mais nous serions prêts à le faire. Notre fuite en toute innocence, notre fuite innocente que vous ne cessez de présenter comme une fuite des dettes. Cette fuite d'innocents, nous sommes prêts à la raconter. Il n'y a rien d'arrogant dans notre voix, rien de sournois. Nous serons calmes, aimables, sereins et compréhensifs. Mais vous n'allez pas nous comprendre. Et comment le pourriez-vous puisque vous ne voulez même pas l'entendre?
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Take me, oh yeah.
Face au chaos du monde, rencontrons de nouvelles figures de la dissidence au féminin, celle contemporaine imaginée par Olivier Py.
Je crois que la seule chose que dise mon théâtre avec un peu de force, c'est l'amour du théâtre. Mon théâtre est un théâtre qui parle du théâtre. Mais parler du théâtre, c'est ma manière à moi de parler du monde.
Le directeur du Festival d'Avignon a publié l'an dernier chez Actes Sud « Les Parisiens ». Dans ce roman, il explore avec malice les différents milieux qui peuplent la capitale, des arcanes du monde de la culture à la jeunesse militante. Et ces Parisiens, Olivier Py, les porte désormais à la scène dans un spectacle présenté du 8 au 15 juillet à la Fabrica. Rencontrons les plus jeunes d'entre eux. Ils s'appellent Aurélien, Iris, Serena. Révolutionnaires ou artistes en devenir, ils ressuscitent le temps de la bohème et se jettent dans la vie à corps perdu en quête d'idéal. Il y a longtemps que tu es réveillé, demande Aurélien en regardant Iris nue se laver les aisselles au-dessus du petit lavabo en face du lit. C'est une chambre de bonne au 8e étage de la rue du Temple. Par une échelle de fer, on peut atteindre les toits. Le ciel y est donc à portée de main. Indifféremment, Iris, Serena et Aurélien y dorment dans des draps douteux. Le lit est grand et Aurélien y dormait de son sommeil héroïque quand il a entendu Iris se lever. « Je n'ai pas dormi, je dois aller chercher Serena au commissariat », dit Iris affairée. « Qu'est-ce qu'elle a fait encore ?» demande Aurélien très en appétit. « Elle croit qu'être exhibitionniste suffit pour être révolutionnaire », dit Iris énigmatique. « Tout dépend de ce qu'elle exhibe », dit Aurélien à court de concepts politiques. Sa frémissante poitrine de jeune femme insatiable avec des slogans apocalyptiques. « La France est une pute, la politique est morte, nous sommes tous des émigrés, abat les frontières, ceci n'est pas une femme, le nationalisme c'est la guerre, je sais pas, je crois qu'elle tire au sort et puis elle bondit toute jeune et belle et colérique. Hier, elle a bondi sur une manifestation contre le régime de Pékin. Comment ne pas l'aimer ?»« Comment ne pas l'aimer ?» dit Aurélien en se branlant distraitement. Elle a été arrêtée par la police hier soir, ils la connaissent maintenant. La France recevait le président chinois, alors c'est sûr, ça la démangeait. Gilda voulait organiser quelque chose. Tu la connais, la passionnariat des trottoirs? Serena l'adore. Elles ont préparé ensemble un petit comité d'accueil sur les droits de l'homme en faveur de cet artiste chinois, Wei Wei. Il casse des vases Ming, made in China, devant l'ONU tous les printemps. Bref, Serena s'est fait coffrer. C'est ce qu'elle voulait, elle adore ça. Je vais la chercher au commissariat à midi. Donc je n'ai pas dormi, j'ai lu ton texte. Tu ne veux pas savoir ce que j'en pense? Je pense que c'est injouable, mais au fond, la gloire d'un texte de théâtre, c'est d'être injouable, de déjouer les limites du théâtre. Restons à Paris, mais remontons le temps. Quelques siècles plus tôt, à deux pas de là, c'est un autre jeune homme qui s'essaye au théâtre. Il s'appelle Jean-Baptiste, on l'appellera Molière.
Mais que vas-tu faire, Jean-Baptiste? Que vas-tu faire de toi-même? Veux-tu être de ces gens qui n'ont point de métier?
La 71e édition du festival rend hommage aux dramaturges. Deux spectacles lui sont consacrés cette année. Impromptu 1663, mis en scène par Clément Hervieux-Léger, nous fera revivre la querelle de l'école des femmes du 17 au 19 juillet dans le gymnase du lycée Saint-Joseph. Et du 8 au 13 juillet au parc des expositions, Franck Castorf adaptera le roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl Bulgakov en le confrontant à d'autres textes. Voici un extrait de cette biographie romancée teintée d'humour. Nous sommes à Paris, en 1643, dans la famille Poquelin. L'aîné de la fratrie, Jean-Baptiste, a pris goût au théâtre.
Belle journée!
Vous connaissez la nouvelle?
Non.
Votre petit-fils ne veut pas être tapissier!
Quelle bonne nouvelle! Connaissez-vous le vers admirable de Corneille? Le ciel, sur nos souhaits, ne règle pas les choses.
Ah, mais c'est ce que je me tue à lui expliquer! Entends-tu, Jean-Baptiste? Entends-tu ce que dit Corneille?
Oui, mais c'est à vous, monsieur, que ce discours s'adresse.
Si son père, tapissier, forme de grands projets pour lui, le jeune homme, du haut de ses 20 ans, ne l'entend pas de cette oreille. Dans les premiers jours de janvier, Jean-Baptiste Poquelin parut devant son père et déclara que tous ses projets visant à l'enrôler dans la corporation des avocats étaient du délire pur et simple, que jamais de sa vie il ne serait notaire, qu'il n'avait pas l'intention de devenir un docte et surtout qu'il ne voulait pas entendre parler de commerce de tapisserie. Il irait là où l'attirait depuis son enfance sa vocation, c'est-à-dire qu'il serait acteur. « Ma plume se refuse à dépeindre ce qui se passa dans la maison. » Quand le père eut quelque peu repris ses esprits, il tenta de dissuader son fils et lui dit tout ce que le devoir paternel lui ordonnait de dire. Que la profession d'acteur est la plus méprisée de toutes les professions, que la Sainte Église rejette les acteurs de son sein, que seul un mendiant ou un vagabond peut en être réduit à cette extrémité. Le père menaçait, le père implorait. « Dis-toi bien, dit-il, que je t'enlève le titre de valet de chambre du roi. Tu dois me le rendre. Je me repens d'avoir écouté ton grand-père et de t'avoir fait donner de l'instruction. » L'inconscient et impénitent Jean-Baptiste répondit qu'il renonçait volontiers au titre et qu'il ne s'opposait pas à ce que le père le transmît à tel de ses autres fils qui lui plairait. Le père exigea une renonciation écrite. Et Jean-Baptiste signa sans balancer une minute ce papier qui, comme il apparut par la suite, n'avait aucune valeur et ne servit à rien. Puis le partage commença. Il revenait à Jean-Baptiste environ 5000 livres. Le père marchanda, comme à la foire. Il ne voulait pas admettre que l'or pût s'écouler dans les bourses trouées des comédiens errants. Et il avait trois fois raison. Bref, il remit à son fils 630 livres. Et c'est avec cette somme que le fils quitta la maison paternelle. Jean-Baptiste prit immédiatement le chemin de la place royale, le chemin d'une famille infiniment chère à son cœur, la famille Béjart. Joseph Béjart, sieur de Belleville, petit fonctionnaire à l'administration centrale des eaux et forêts, vivait à Paris avec son épouse, née Marie Hervé, et avait 4 enfants. La famille était remarquable en ceci que tout le monde, à commencer par le sieur de Belleville lui-même, brûlait de la passion du théâtre. La fille, Madeleine, était une excellente actrice professionnelle. Le fils aîné, Joseph, et la fille Geneviève, non contents de se produire dans des spectacles d'amateurs, rêvaient de fonder un théâtre. Le plus jeune fils, Louis, marchait naturellement sur les traces de ses aînés. Béjart Belleville encourageait vivement ses enfants dans leur activité, d'autant qu'il avait lui-même tenté de se lancer dans la carrière théâtrale. Et la mère, aimante, n'avait rien contre les inclinations de ses enfants. Jean-Baptiste eût difficilement pu se trouver en meilleure compagnie. Mais l'amour du théâtre n'était pas le seul lien entre Poquelin et les Béjart. Il ne fait pas de doute que Madeleine et Poquelin se connaissaient et s'aimaient déjà. Donc, en janvier 1643, Poquelin entra, avec l'argent de son héritage, dans la maison des Béjart. Et la demeure de la place royale devint le centre d'une agitation inusitée. On vit apparaître chez les Béjart des jeunes gens d'allure douteuse, au sens théâtral, bientôt suivis par des acteurs professionnels, expérimentés et déjà usés. L'affaire fut mûre l'été de l'année 1643, le 30 juin. Une convention solennelle fut conclue en présence de M. Maréchal, avocat au Parlement de Paris. L'acte annonçait qu'une compagnie de 10 personnes fondait un nouveau théâtre. Sans modestie excessive, le groupe intitula le futur théâtre « Illustre Théâtre » et tous ceux qui y entrèrent se donnèrent le nom d'enfants de la famille. Dès l'instant que fut créé l'Illustre Théâtre, Jean-Baptiste Poquelin cessa d'exister et à sa place parut Jean-Baptiste Molière. D'où vient ce nouveau nom? On ne le sait pas. Certains expliquent que Poquelin a utilisé un pseudonyme qui traînait dans les milieux du théâtre et de la musique. D'autres que Jean-Baptiste a repris le nom de Molière à une obscure localité. Certains disent que c'est le nom d'un écrivain mort en 1623. Quoi qu'il en soit, Poquelin devint Molière. Quand il apprit la chose, le père se contenta de faire un geste fataliste de la main. Molière n'est pas le seul artiste fêté cette année. Un duo remarquable rend hommage aux grandes plumes du XXe siècle. Romain Gary, Henri Michaux, Marcel Proust, Paul Valéry. Ces artistes et leurs jeunes années seront au cœur d'un spectacle imaginé par Robin Renucci et le pianiste Nicolas Stavy, L'enfance à l'œuvre, présenté en itinérance du 7 au 26 juillet. Comme nous y invite ce spectacle, découvrons les souvenirs d'enfance de Romain Gary, né Romain Cassiou.
J'ai été très profondément marqué par ma mère, et notamment en ce qui concerne, par exemple, le patriotisme. Ma mère, qui était russe, avait pour la France cette espèce d'attachement extérieur que l'on ne peut comprendre, au fond, que lorsqu'on n'est pas français. Et elle a, dans cette mesure-là, conditionné tous mes engagements idéologiques. Le patriotisme, qu'est-ce que c'est le patriotisme? C'est l'amour des siens. Et le nationalisme, qu'est-ce que c'est le nationalisme? C'est la haine des autres. Je rattache la notion du patriotisme à l'amour de la mère. En ce sens, c'est une notion d'amour qui n'est en rien une notion de haine pour les autres. C'est sans ce qu'on peut aimer sa mère, sans qu'on se la haïr la mère des autres, au contraire.
Dans La promesse de l'aube, paru en 1960 chez Gallimard, l'écrivain relate son entrée en littérature sous la houlette d'une mère fantasque et adorée. Là encore, le nom d'artiste a son importance. Les propres ambitions artistiques de ma mère ne s'étaient jamais accomplies, et elle comptait sur moi pour les réaliser. J'étais pour ma part décidé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle devînt, par mon truchement, une artiste célèbre et acclamée. Et après avoir longtemps hésité entre la peinture, la scène, le chant et la danse, je devais un jour opter pour la littérature, qui me paraissait le dernier refuge sur cette terre de tous ceux qui ne savent pas où se fourrer. Ma mère n'avait contre la littérature aucun de ces préjugés presque superstitieux que la peinture lui inspirait. Elle la voyait au contraire comme d'un assez bon œil, comme une très grande dame reçue dans les meilleures maisons. Goethe avait été couvert d'honneur, Tolstoï était comte, Victor Hugo président de la République, je ne sais pas où elle avait pris cette idée, mais elle y tenait, et puis brusquement, son visage s'assombrit. « Mais il faudra que tu fasses attention à ta santé à cause des maladies vénériennes. Guy de Maupassant est mort fou. Heine paralytique. » Elle parut soucieuse et fuma un instant en silence. La littérature avait évidemment ses dangers. « Ça commence par un bouton, » me dit-elle. « Je sais. » Promets-moi de faire attention. Ma vie amoureuse n'avait pas dépassé à cette époque les regards éperdus que je lançais sous les jupes de Mariette, notre femme de ménage, lorsqu'elle montait sur l'escabeau. Je te le promets. C'est ainsi que nous nous résignâmes à la littérature, malgré le péril vénérien. Il ne nous restait plus maintenant, pour donner à nos rêves un début de réalisation, qu'à nous trouver un pseudonyme digne des chefs-d'œuvre que le monde attendait de nous. Je restais des journées entières dans ma chambre à noircir du papier de noms mirobolants. Ma mère passait parfois la tête à l'intérieur pour s'informer de l'état de mon inspiration. Alors, je prenais la feuille de papier et lui révélais le résultat de mon travail littéraire de la journée. Je n'étais jamais satisfait de mes efforts. Aucun nom, aussi beau et retentissant fut-il, ne me paraissait à la hauteur de ce que j'aurais voulu accomplir pour elle. Alexandre Natal, Armand de la Tor, Terral, Vasco de la Ferney. Cela continuait ainsi pendant des pages et des pages. Après chaque chapelet de noms, nous nous regardions et nous hochions tous les deux la tête. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça du tout. Au fond, nous savions fort bien l'un et l'autre les noms qu'il nous fallait. Malheureusement, ils étaient tous déjà pris. Goethe était déjà occupé, Shakespeare aussi et Victor Hugo aussi. « Il faudrait quelque chose comme Gabriel D'Annunzio, » dit ma mère. « Il a fait souffrir la Duse terriblement. » Ceci était dit avec une nuance de respect et d'admiration. Il paraissait à ma mère tout naturel que les grands hommes fissent souffrir les femmes. Et elle espérait bien que j'allais, à cet égard, donner le meilleur de moi-même, moi aussi. Elle tenait énormément à mes succès féminins. Elle y voyait manifestement un des aspects essentiels de la réussite terrestre. C'était pour elle quelque chose qui allait de pair avec les honneurs officiels, les décorations, les grands uniformes, le champagne, les réceptions à l'ambassade. Et lorsqu'elle me parlait de Vronsky et d'Anna Karénine, elle me regardait avec fierté, caressait mes cheveux, et soupirait bruyamment, avec un sourire de naïve anticipation. Peut-être y avait-il dans le subconscient de cette femme qui avait été si belle, mais qui vivait depuis si longtemps sans homme, un besoin de revanche physique et sentimentale qu'elle demandait à son fils de prendre à sa place. En tout cas, après avoir passé la journée à marcher de maison en maison, sa petite valise à la main, il s'agissait d'aller voir les riches Anglais dans les palaces, en se présentant comme une dame appauvrie de l'aristocratie russe, réduite à vendre ses derniers bijoux de famille. Les bijoux lui étaient confiés par les boutiquiers et une commission de 10% lui était réservée. Après une journée d'autant plus humiliante et fatigante qu'il lui arrivait rarement de conclure plus d'une affaire par mois, elle prenait à peine le temps d'ôter son chapeau et son manteau gris, d'allumer une cigarette et venait, avec un sourire heureux, s'asseoir en face du gamin en culotte courte que j'étais. Roland de Chanteclair, Romain de Mysore, « Il vaut peut-être mieux prendre un nom sans particules s'il y a encore une révolution », disait ma mère. Je débitais un à un le chapelet de pseudonymes sonores et grandiloquents, chargé d'exprimer tout ce que je ressentais, tout ce que je voulais lui offrir. Elle écoutait avec une attention un peu anxieuse, et je sentais bien qu'aucun de ces noms ne lui suffisait, qu'aucun n'était assez beau pour moi. Bien plus tard, lorsque pour la première fois j'entendis à la radio le nom du général de Gaulle, au moment de son fameux appel, ma première réaction fut un mouvement de colère, parce que je n'avais pas songé à inventer ce beau nom 15 ans plus tôt, Charles de Gaulle. Cela aurait sûrement plu à ma mère. surtout si je l'avais écrit avec un seul L. La vie est pavée d'occasions perdues.
Wishing for a friend, someone to call my own. Who's left for me? Have no bound and can be sold. Give me a friend who's gonna catch me when I fall. Oh, when I fall.
Concluons ce parcours sur un poème. Le 26 juillet prochain, c'est le spectacle « Femmes noires » dans la cour du Palais des Papes qui marquera en beauté la fin du festival. Pour l'occasion, la chanteuse Angélique Kidjo et le comédien Isaac de Bancolé convieront différents artistes autour des mots de Léopold Sédar Senghor. Goûtons au vers libre de l'homme de lettres sénégalais paru dans le recueil « Chants d'ombre » en 1948. Voici « Femmes noires », une ode à la femme africaine. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimé. Femme noire, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rongent ta peau qui se moire, à l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Stéphane Boja. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Maninge, Fanny Leroy et Claire Tesser. À partir de la semaine prochaine, je vous invite à réécouter une sélection de nos émissions chaque dimanche de l'été à partir de midi. Un peu de lecture pendant les vacances, ça peut pas faire de mal. Bel été à vous. Thank you.